connaître le fonctionnement du cerveau, ses capacités, sa structure, pour soigner ou même pour guérir, c'est ce que permettent désormais certaines technologies très pointues. Mais jusqu'où aller quand on sait que les différentes zones cérébrales sont liées entre elles et que lorsqu'on touche à l'une, immanquablement cela a un effet sur les autres? Et puis se pose la question d'applications qui donc peut avoir avec le soin et dont l'objectif est l'homme augmenté, dont le transhumanisme vante les mérites. Laure Taboui évoque ces questions dans le troisième épisode de ce podcast. Elle est neuroscientifique, spécialiste des questions éthiques qu'elle enseigne à l'Institut catholique de Paris.
La question du transhumanisme, c'est vraiment une augmentation de l'ensemble des capacités physiques et cérébrales par le biais d'une augmentation génétique, cérébrale et corporelle. Donc c'est un ensemble. Et l'enjeu même du courant transhumaniste, c'est vraiment répondre à la question de la finitude de l'homme, en fait, à dépasser finalement l'homme à l'état actuel des choses, fini, n'a pas à être fini, et donc doit dépasser, selon ce courant, cette finitude et cette mortalité pour devenir immortel et donc pour pouvoir continuer à vivre.
Cette mortalité, cette limite, cette vulnérabilité qui fait partie de notre condition, ce serait une anomalie.
C'est ça. En fait, si on va jusqu'au bout du courant transhumanisme, c'est ça. C'est vraiment une anomalie qui est incompréhensible parce que l'homme doit dépasser cette finitude, cette vulnérabilité, cette fragilité humaine.
Les outils techniques, technologiques dont on dispose doivent contribuer, permettre à repousser ces limites qui font aussi la dimension parfois tragique de notre humanité, de notre condition.
Totalement. L'enjeu est, pour le courant transhumaniste, c'est vraiment d'aller donner cette espérance finalement qu'on peut dépasser cette finitude, cette vulnérabilité et cette fragilité. Alors aujourd'hui, ça passe par le domaine de la santé, du médical, parce que c'est cette porte un peu sacrée dans laquelle toutes les neurotechnologies rentrent aujourd'hui, parce que comment ne pas accepter finalement ces technologies si elles peuvent soulager les souffrances, améliorer le quotidien, permettre à des personnes tétraplégiques de remarcher comme des exosquelettes ou de réguler les tremblements ou les crises épileptiques. Les recherches en neurosciences et les neurotechnologies rentrent par ce biais-là. Cette espérance que l'on peut apporter aux êtres humains, à nos concitoyens qui souffrent de telle ou telle pathologie ou de telle ou telle dysfonctionnement.
Et pourtant, ces questions entraînent des réflexions, voire des lois qui encadrent l'usage et l'utilisation de ces technologies. Pourquoi ? Pourquoi mettre des limites, justement, à cette volonté de dépasser les limites ?
En fait, ça ouvre effectivement les questions éthiques et juridiques sur les recherches des neurotechnologies et les recherches des neurosciences. Parce qu'on touche au cerveau, qui est le lieu finalement même de la personnalité, des pensées, lieu de la conscience, qui, je l'espère finalement, restera un mystère, même en tant que neuroscientifique. J'espère que ça restera un mystère. Parce qu'on touche finalement à l'intimité même de l'être humain dans sa singularité, dans son unicité. Et que toucher au cerveau, c'est finalement, si on dévie un peu de cette espérance que nous donne ce courant transhumaniste qui est un peu caché et non caché, enfin, aujourd'hui c'est plus ou moins caché quand même aujourd'hui, mais ça peut permettre aussi de contrôler les autres, ça peut permettre aussi de manipuler aussi l'esprit des autres. Donc on a aussi un enjeu de démocratie derrière, un enjeu, finalement c'est un enjeu économique et politique.
Et de liberté individuelle et collective.
Oui, notre liberté individuelle par rapport à la liberté collective, la possibilité que l'on a d'être libre de nos pensées, de nos convictions. Nous sommes là l'une en face de l'autre, on ne sait pas ce que pense l'une et l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait du coup s'adapter si on a accès à ces pensées? Alors, on flirte avec la science-fiction, hein, c'est fictionnel, hein, on flirte avec Minority Report, Inception ou avec Black Mirror. Hein, c'est vraiment aller chercher la pensée de l'autre.
Pour la maîtriser.
Pour la maîtriser. Et en fait, c'est là où il y a vraiment on commence à voir les enjeux éthiques et juridiques arriver parce que on sent le danger. En fait, le mur n'est pas pris, Le mur n'est pas là encore, mais les enjeux juridiques et éthiques commencent à se faire sentir parce qu'on voit en ces technologies, et en particulier depuis que les neurosciences et les systèmes d'IA convergent, que les neurotechnologies qui permettent de voir le fonctionnement et la structure même du cerveau dans les laboratoires et dans les startups et les entreprises sont connectées au système d'IA. Et donc, en fait, il y a finalement la boucle fermée est devenue boucle ouverte avec un traitement des données qui, du coup, échappe aussi à la personne même qui, dans quelle. Donc, il y a plusieurs questions. Il y a la question des données cérébrales. Quelles sont-elles? Quelles sont les significations? Où est-ce qu'elles sont stockées? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, pour le coup, c'est pas encore axé.
C'est très tentant d'arriver à maîtriser ça.
Non seulement
ça.
C'est très tentant, mais c'est déjà ce que font Meta avec ses lunettes Ray-Ban, ce que fait Elon Musk avec Neuralink. En France, on a une start-up qui s'appelle Apps, qui a qu'une envie, c'est finalement d'aller capter les données cérébrales des gens pour permettre une augmentation cérébrale, sans limitation juridique et éthique. En fait, il faut comprendre que le cerveau est le dernier bastion sur lequel qui n'avait pas été exploré jusqu'à présent. Et c'est sur ça aujourd'hui que les recherches, les start-up et que le courant transhumaniste en particulier s'engouffre. En fait, aujourd'hui, on a des recherches qui sont drivées par le technosolutionnisme, par des enjeux politiques et des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir au sein même des comités d'éthique, au sein même des structures même qui sont censées gérer les réflexions éthiques, parce qu'il y a un enjeu financier, un enjeu de souveraineté aussi française. Il ne faut pas perdre la main, un enjeu aussi, sans parler des enjeux militaires derrière aussi, dont on ne parlera pas ici. Il y a des enjeux de pouvoir démocratique à différentes échelles qui rentrent en collision actuellement, française, européenne et mondiale.
D'où la nécessité, pour en revenir à la question d'un encadrement éthique, juridique.
Si on parle en France, on a la loi bioéthique 2021 qui a été promulguée le 2 août 2021 qui commence à intégrer les neurosciences, un peu les neurotechnologies par le biais de l'imagerie médicale, l'imagerie cérébrale, le big data et puis les intelligences artificielles dans le domaine de la santé. C'est vraiment la loi bioéthique, c'est vraiment le domaine de la santé. Donc en France, il n'y a pas de loi qui légifère hors santé aujourd'hui. Donc on a cette loi-là qui va être réouverte en début 2026, les états généraux réouvrent en 2026. Donc tous ces enjeux-là vont arriver de plein fouet dans la société dès 2026. En Europe, en fait, on a eu en 2019 une recommandation de l'OCDE sur les neurotechnologies, dont l'application a donné lieu à une charte des neurotechnologies responsables française, inaugurée le 17 novembre 2022 par le ministère de la Recherche, et qui fait partie en fait d'un consortium qui a donné lieu à une charte des neurotechnologies européenne validée en mars 2025 par la Commission européenne. Cette charte-là et puis cette loi-là française, elles ont un biais, c'est que c'est très orienté, en tout cas la charte des neurotechnologies française est très orientée pour pouvoir intégrer toutes les entreprises et les industries, et donc il y a peu de réflexion éthique. Il n'y a même pas de réflexion éthique, philosophique. C'est très pauvre et encore moins théologique. Et puis, au niveau de l'Europe, donc, il y a cette recommandation de l'OCDE qui est importante pour le coup. Et puis, au niveau mondial, on va avoir une recommandation qui va être adoptée fin octobre, début novembre 2025 par l'UNESCO lors de la 43e Assemblée générale de l'UNESCO sur une recommandation mondiale au niveau des neurotechnologies qui a été travaillé pendant plus d'un an et demi. Je fais partie du groupe de travail de la délégation française de l'UNESCO qui a travaillé sur ce texte-là pendant un an et demi. Et donc là, on va arriver avec diverses couches de gouvernance des neurotechnologies mais qui ont un angle mort, qui est une absence finalement de réflexion, une absence où on essaye de lisser en fait au maximum pour aller au consensus. Et en allant au consensus et en fait en lissant, on oublie les caractéristiques culturelles, spirituelles, la philosophie, et en fait c'est ça qui manque aujourd'hui, et c'est peut-être là où les chrétiens peuvent aussi agir.
J'aimerais qu'on termine cet épisode, Laure Tabouille, avec une question qui nous fait faire peut-être un petit pas de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les neurosciences permettent d'expliquer les émotions, les ressentis, la pensée, la conscience, la volonté, tout ce qui caractérise l'humain?
Alors, les neurosciences, elles vont apporter des éléments de réponse sur le plan du fonctionnement et de la structure de ces fonctionnements cognitifs, effectivement. De la conscience, de la pensée, comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce que les informations véhiculent dans le cerveau quand on est conscient de quelque chose. Les études sur les EMI et puis les études des personnes dans le coma, des personnes qui sont dans un syndrome de l'enfermement, ça permet de communiquer avec des personnes qui n'ont pas de communication physique avec le reste du monde. Ça nous donne des informations matérielles. Et ça, c'est précieux. En revanche, dire que ça, c'est la conscience et que la conscience, c'est non. Dire que tout ce que l'on voit à travers les neurotechnologies, l'IRM, les EEG, tout ce que nous donne de voir les neurosciences de façon matérielle, ce n'est que ça. C'est vraiment une vision réductionniste matérialiste. Réductionnisme, on en a besoin, parce que la science a besoin de réduction pour pouvoir étudier, et ça, c'est pas un mal, et il le faut, en fait.
Matérialiste, c'est plus... Matérialiste, ça pose question.
Ça veut dire que tout ce que l'on voit n'est que ça. C'est l'histoire même des neurosciences françaises. Donc, c'est Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene qui prônent, finalement, un matérialisme assez radical, même si c'est pas radical en soi, mais il faut comprendre que la vision réductionniste matérialiste que nous donnent les neurosciences et les neurotechnologies doivent être retraversées aussi par une vision aussi chrétienne et théologique, avec une confrontation
spirituelle
et spirituelle. Voilà, toute la spiritualité derrière, qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'homme?
C'est une question de dialogue là qui est importante.
Exactement, il faut mettre en dialogue les neurosciences et la spiritualité, tout en se disant que ce que nous offrent les neurosciences aujourd'hui est précieux.
C'est la fin du troisième épisode de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. On retrouve Laure Tabouille dans le quatrième épisode de cette série où on parlera de l'anthropologie chrétienne. Dans lequel on parlera de l'anthropologie chrétienne.